forêt, nos différences.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu idéal pour découvrir les bienfaits de la nature, un lieu expérimental, puisque pourvu d'un parc de 1,8 hectare pour conduire ses activités. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et aujourd'hui, toute seule, à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. L'automne est bien là, bien installé, annonçant la fin des soirées ensoleillées et la redécouverte des coins sombres et de l'obscurité. La saison idéale, finalement, pour parler des champignons. Comment poussent-ils ? Sont-ils végétaux ou animaux ? Quelle histoire ont-ils tissé avec les autres espèces et dans nos écosystèmes ? Nous tâcherons d'y répondre humblement dans la prochaine demi-heure. Au cours de cette émission, nous écouterons l'interview de David, le spécialiste des champignons à Écuyer, celui qui connaît les emplacements secrets et à qui l'on demande lorsque l'on a un doute. Karine nous parlera quant à elle des utilisations thérapeutiques dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Enfin, au cours de l'émission, le chant du rouge-gorge nous accompagnera dans notre périple. Mes lectures récentes m'ont conduite à m'interroger dans l'ouvrage passionnant de l'historien Yuval Noah Harari intitulé « Sapiens ». Une brève histoire de l'humanité. C'est une occasion toute trouvée d'en partager quelques extraits avec vous, puisque dans cette émission, nous parlons de cueillette, justement. Le fourrageur moyen avait une connaissance plus large, plus profonde et plus variée de son environnement immédiat que la plupart de ses descendants modernes. De nos jours, la grande majorité des habitants des sociétés industrielles n'a pas besoin de savoir grand-chose du monde naturel pour survivre. Que faut-il vraiment savoir de la nature pour être informaticien, agent d'assurance, professeur d'histoire ou ouvrier ? Il faut être féru dans son tout petit domaine d'expertise, mais pour la plupart des nécessités de la vie, on s'en remet aveuglément à l'aide d'autres connaisseurs, dont le savoir se limite aussi à un minuscule domaine d'expertise. La collectivité humaine en sait aujourd'hui bien plus long que les bandes d'autrefois. Sur un plan individuel, en revanche, l'histoire n'a pas connu homme plus averti et plus habile que les anciens fourrageurs. De fait, tout indique que la taille du cerveau moyen des sapiens a bel et bien diminué depuis l'époque des fourrageurs. Les fourrageurs maîtrisaient non seulement le monde environnant des animaux, des plantes, des objets, mais aussi le monde intérieur de leur corps et de leurs sens. Ils étaient attentifs au moindre frémissement d'herbe pour repérer la présence d'un serpent. Ils observaient attentivement le feuillage des arbres pour y découvrir des fruits, des ruches ou des nids d'oiseaux. Ils se déplaçaient, moyennant un minimum d'efforts et de bruit, et savaient s'asseoir, marcher et courir de la manière la plus agile et la plus efficace qui soit. La plupart du temps, dans la plupart des coins, le fourrage assurait une nutrition idéale. Le secret de la réussite des fourrageurs, ce qui les protégeait de la famine et de la malnutrition, était la diversité de leur alimentation. Les paysans ont tendance à avoir une alimentation très limitée et déséquilibrée. Dans les temps prémodernes notamment, la population agricole trouvait l'essentiel de ses calories dans une seule culture, blé, pommes de terre ou riz, à laquelle il manque des vitamines, des minéraux ou d'autres éléments nutritifs dont les hommes ont besoin. En revanche, les anciens fourrageurs consommaient régulièrement des douzaines d'autres aliments. L'ancêtre du paysan, le fourrageur, pouvait bien manger des baies et des champignons au petit déjeuner, des fruits, des escargots et une tortue marine à midi, et du lapin aux oignons sauvages le soir. Cette diversité aidant, il recevait tous les nutriments indispensables. Après ce témoignage édifiant qui met en évidence le lien ancestral entre diversité alimentaire et bonne santé, retrouvons la forme et partons en balade, faire connaissance avec le monde mystérieux, des champignons.
En 1991, la découverte dans les Alpes d'Ötzi, la dépouille tannée la mieux conservée et la mieux étudiée, datant de 5300 ans avant Jésus-Christ, révèle que cet homme transportait dans son sac deux champignons, des polypores du bouleau, probablement à usage médical, et de l'amadou, probable allume-feu. Cette particularité suggère que les hommes de cette époque, qui vivaient de chasse et de cueillette, ont récolté des champignons pour leur consommation, comme le font encore de nos jours maints peuples vivant dans la nature. Des fossiles datant de 450 millions d'années témoignent de l'ancienneté des champignons. À titre de comparaison, les premières plantes à fleurs sont apparues il y a 150 millions d'années et l'Homo sapiens il y a seulement 2,5 millions d'années environ. Avec les bactéries, les champignons ont permis le développement de la vie sur Terre il y a 1 milliard d'années au moins. Sans eux, il n'y aurait que des océans stériles, des plateaux rocheux et des montagnes balayées par les vents et érodées par la pluie, des dunes de sable, résultat de leur abrasion et du transport des sédiments par les eaux de pluie et les rivières. Un monde minéral et aquatique. La colonisation des milieux terrestres et aquatiques par les bactéries et les champignons, au fil des millénaires, a contribué à la constitution des sols fertiles sur lesquels se sont installés les végétaux. Un hectare de sol cultivé, aujourd'hui, abrite en moyenne 1,5 tonnes de bactéries et 3,5 tonnes de champignons. Un gramme de sol forestier en contient plusieurs milliers d'espèces. Si nous les identifions à leur chapeau, ces apparitions ne représentent qu'une infime partie de leur diversité réelle, qui comprend 26% des espèces vivantes sur Terre. Le mycologue Guillaume Lopez témoigne. La plupart des champignons vivent sous forme de réseau que l'on appelle le mycélium. Dans le cas de ce champignon qui s'appelle armillaire, son mycélium peut vivre des milliers d'années. Le plus gros spécimen se trouve dans l'Oregon. Il aurait presque 9000 ans. Son mycélium s'étale sur une surface de 9,6 km². Comme l'iceberg, l'essentiel est enfoui sous la surface. Aujourd'hui, à peine 6 à 7% des espèces ont été recensées par les scientifiques. Aussi, certains font-ils appel aux citoyens cueilleurs pour faire des prélèvements d'ADN afin de répertorier davantage d'espèces et ainsi contribuer à découvrir et valoriser leurs propriétés curatives et environnementales. La classification scientifique des champignons a de tout temps fait débat. Non chlorophylliens, ils ne peuvent pas fabriquer de molécules complexes en capturant le carbone de l'air via la photosynthèse. Ils ne peuvent donc être considérés comme des végétaux. Pour survivre, ils doivent mettre en place différentes stratégies pour se procurer ce fameux carbone à base de toutes les cellules organiques, ce qui les rapproche du règne animal. Ils peuvent ainsi décomposer de la matière morte. On parle alors de saprophyte. Faire équipe avec d'autres végétaux, on parle de symbiotique. Ou alors, se nourrir aux dépens d'autres organismes vivants, on parle de parasites. Ces derniers sont la bête noire des humains, car ils sont vecteurs des maladies des cultures et des humains. Pour se nourrir, ils n'ont pas d'estomac. Les nutriments pénètrent directement par leur paroi extérieure. Leur appareil végétatif prend la forme de filaments microscopiques, ramifiés et diffus, appelés hyphes, dont l'ensemble compose le mycélium. Leur reproduction se réalise via la diffusion de spores, comme celles que l'on retrouve sur certains aliments, à l'instar des moisissures ou des levures. Seule la classe des eumycètes développe des organes spécifiques portant les spores. Les basidiomycètes, nommés champignons vrais, car ils regroupent ceux que nous cueillons et cultivons avec des pieds et des chapeaux, forment des sporophores aériens, alors que les ascomycètes portent des sporophores souterrains, comme c'est le cas pour la truffe. Pour évoquer en chanson cette diversité dans leur forme, laissons la parole à notre chanteuse préférée, Anne Sylvestre, et le bal des champignons.
D'une coulemelle, j'ai fait une ombrelle, et d'un champignon tout rond, j'ai fait un chapeau melon. J'ai mis ma collerette, mon habit de fête, pour aller danser un peu chez le roi des elfes bleus. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. Belle girole qui faisait la folle dit que me marie demain, un bolet voudrait ma main. Tête de girole, tête, tête folle, vous n'avez ni bras ni main, vous n'avez qu'un pied très fin. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. Madame Morille, qui est si gentille, pense qu'il est de bon ton d'aimer un pied de mouton. Mais son mari grogne, grogne, se renfrogne, car il est, ça c'est trop fort, une trompette de la mort. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. La belle orange, j'ai compté mes songes, elle m'a dit que bientôt j'habiterai un château. Grand merci la belle pour cette nouvelle, je m'en vais danser en rond avec 30 mousserons. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons, sous les liserons.
Vous êtes sur 101.5 FM dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G pour parler des champignons. Les champignons occupent une place fondamentale dans tous les cycles de la vie sur Terre. Les saprophytes et les lignivores ont la mission vitale de décomposer la matière organique. Les saprophytes se nourrissent de végétaux ligneux en décomposition, alors que les lignivores dévorent le bois des arbres vivants. Si les lignivores sont à l'origine de nombreuses maladies affectant nos arbres, ils n'affectent de façon minime les peuplements naturels diversifiés. En revanche, certaines espèces rapportées lors des transports de matériaux provoquent parfois la disparition de certains arbres, comme la graphiose de l'orme, d'origine asiatique, ou le chancre coloré du platane, importé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les saprophytes, quant à eux, contribuent à la décomposition de la lignine et de la cellulose qui seront ensuite découpées et ingérées par des bactéries et des insectes du sol. Ces champignons opèrent tels des cuisiniers du sol hors pair, recyclant les cellules végétales mortes pour en confectionner des ingrédients faciles à ingérer par les autres êtres vivants. D'autres sont capables de s'attaquer à la roche-mère, libérant ainsi les éléments minéraux pour les plantes. Sans eux, il n'y aurait pas de terre fertile. Mieux vaut ainsi limiter les interventions sur les sols pour préserver leur action. Les champignons sont les champions des associations. C'est ainsi que les lichens sont des chimères végétales associant une algue photosynthétique et un champignon, une coopération alimentaire d'une redoutable efficacité. La découverte la plus passionnante concerne la symbiose entre les hyphes du mycélium et les racines des végétaux. On estime que 90% des espèces de la planète sont mycorhizées. Les scientifiques pensent que les champignons mycorhiziens ont permis aux végétaux de quitter le monde aquatique pour s'enraciner dans le sol. Le mycologue Marc-André Sellos décrit cette symbiose entre végétaux et champignons comme l'auberge espagnole où chacun apporte ce qu'il possède. La coopération est tout d'abord alimentaire. Les plantes fournissent sucre et vitamines, alors que les champignons les approvisionnent en retour en éléments minéraux et en eau. Le réseau d'IF mycorhizienne participe à la formation des agrégats des sols, limitant l'érosion et favorisant la rétention d'eau. Il est à l'origine d'un vaste réseau d'entraide et de communication entre les végétaux éloignés, leur permettant de se prévenir en cas de danger. Ils font même office de pharmacie, puisqu'ils sécrètent des antibiotiques. Vous l'aurez compris, dès sa germination, une plante sécrète spontanément des hormones destinées à attirer les champignons mycorhiziens qui s'empresseront de tapisser les racines de leurs ifs, des apporteurs de nutriments gratuits et de qualité, pas besoin d'engrais en vérité, dans un sol vivant. Outre leur rôle dans les cycles alimentaires naturels, certaines espèces ont aussi la capacité de dégrader ou de stocker les molécules toxiques comme les pesticides ou les polluants. On parle de mycorhomédiation, une bonne raison pour éviter de consommer des champignons à proximité de lieux pollués comme les bords de route. En parlant de cueillette, il est temps de laisser la parole à David, habitant d'Écuyer, dans la séquence interview. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de t'être déplacé au Plantis. Et en fait, si je t'ai proposé cette interview, c'est parce que en fait, tu es devenu au fil du temps notre référent champignon à Écuyer.
C'est un bien grand mot.
Et ben donc, en fait, moi, ma première question, c'est ben, comment t'es venu quelque part cette connaissance des champignons et la connaissance aussi en lien avec le territoire.
Eh bien, grâce à ma maman. Et mais depuis de l'âge de 4-5 ans, elle m'emmenait avec elle dans le champ qui était en face de notre habitation familiale. Et notre cueillette se limitait au rosé de pré, la garrigue, la lépiote élevée, qu'on appelle aussi la coulmelle ou la poterelle, quelques pieds de mouton. Et puis à l'époque, on avait la chance de trouver encore des morilles, puisque nos champs étaient encore fournis richement en haies, avant que, hélas, le remembrement ne passe par là. Et d'ailleurs, dont j'en ai vu les conséquences, puisque la quantité de champignons a nettement diminué à la suppression des haies. Comme quoi, elles ont toute leur utilité, mais ça,
on n'apprend rien. Puis les champignons sont un peu mariés avec les arbres aussi. Donc
exactement. Et les haies protègent du vent et donc des spores qui se déposent sur le sol pour fabriquer le mycélium à l'origine des champignons. Ensuite, je me suis aventuré un peu tout seul dans les bois pour découvrir les champignons des forêts. Mais j'avais la chance d'avoir à l'époque un pharmacien qui était spécialiste des champignons sur Saint-Sylvain. Et avec grande prudence, et d'ailleurs c'est le conseil que je peux encore donner aujourd'hui et que moi je pratique, c'est que je suis toujours muni de 2-3 sacs pour isoler des espèces pour lesquelles j'ai soit un doute, soit j'ignore le champignon. J'ai pu enrichir mes connaissances des champignons au-delà des prés dans les forêts grâce à ce pharmacien qui s'appelait Monsieur Termin. Voilà.
Et donc quand tu es arrivé à Écuyer, j'imagine que tu...
J'ai toujours eu des champignons en tête.
Ta quête.
Bon, on a la chance d'être sur une commune où on est quand même assez bien fourni en forêt et en champs. Donc j'ai commencé par les champs qui bordaient ma propriété, où là j'ai eu la joie de te trouver beaucoup de coulmelles, l'épiote élevée, le nom plus scientifique, et puis ensuite en m'aventurant dans un petit bois pas très loin, j'ai eu la chance de découvrir une multitude de girolles en tube, donc et de pieds de mouton.
Conseils, enfin, hormis le fait de les séparer, etc., de cueillette par rapport au prélèvement, par rapport peut-être au contenant, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des paniers pour pas qu'ils s'abîment. Et puis après, bah, voilà, effectivement, on verra après si tu as une petite recette à nous partager.
Alors, concernant la cueillette, toujours être muni évidemment d'un couteau, parce qu'il ne faut pas arracher le champignon, il ne faut pas le déraciner, sauf les champignons qu'on méconnaît. Là, pour pouvoir l'examiner ensuite, soit chez soi avec ces dictionnaires, ces bibles, on va dire, ou alors un pharmacien, mais il y en a de moins en moins, spécialistes. Moi, c'est très simple, comme j'aime beaucoup les champignons, je les cuis le plus simplement possible. Je les fais d'abord un peu dégorger, c'est-à-dire j'ai fait cuire à feu vif, couvert. Je vide cette eau et ensuite j'y rajoute du beurre, évidemment, de l'ail émincé, un petit peu de persil. Je recouvre et je laisse à feu doux, en remonte régulièrement, et j'y mange nature comme ça.
Bah écoute, merci pour cette interview, David.
Je vous en prie. Et si, dernier conseil, on ne ramasse que ce qu'on peut manger. Inutile de ramasser une multitude pour en jeter. Pensons aux autres. Et puis, laissons-les.
Eh ben, merci encore, David.
Merci à toi.
Le partenariat plante-champignon s'est étendu aux humains depuis fort longtemps. Cependant, cette relation reste ambivalente, tantôt nourricière pour sauver de la famine, tantôt toxique et mortelle. Ainsi, partout sur Terre, les civilisations humaines, telles celles des Mayas et des Aztèques, ont associé leur usage à la magie et à la communication entre la vie et la mort. Les divinités de la Grèce antique s'en inspirent, avec Persée, fils de Zeus, lorsqu'il décide de créer la ville de Mycène, près de la rivière où il a pu s'abreuver, à l'aide justement d'un chapeau de champignons. Quant aux Romains, ils célèbrent le culte du mystère d'Éleusis en élaborant une boisson contaminée par l'ergot du seigle, réputée mortelle, mais à l'effet psychédélique puissant. Cette boisson permet de surmonter sa peur de mourir et de réaliser le but de sa vie. En Sibérie, encore aujourd'hui, les chamans récoltent l'hiver et font sécher l'amanite muscari, un champignon hallucinogène, pour interpréter les rêves, accéder à la sagesse ancestrale et comprendre le monde. Chez tous les peuples autochtones actuels, en Australie comme en Afrique, les champignons aident à entrer en contact avec le monde des esprits de la nature. En Asie, la médecine traditionnelle chinoise préconise l'usage médicinal des champignons. Le shiitake est réputé riche en vitamine D. Le reishi, quant à lui, est un trésor pour la longévité, voire la quête d'immortalité. Pour en savoir plus, écoutons maintenant Karine dans la chronique Le bonheur est dans les simples.
Bonjour à tous. Au sein de cette chronique, on a plutôt l'habitude de parler des vertus médicinales des plantes. Je veux parler donc des champignons. Donc ils ont développé plein de propriétés biologiques qui sont fascinantes et qui sont précieuses d'un point de vue médical. Ils ont plein d'actions. Une action vermifuge, des actions anti-cholestérol, des actions antibiotiques. Et on connaît beaucoup, en tout cas après à l'école, l'action de la pénicilline, qui a donc été tiré d'un champignon. L'utilisation donc des champignons, c'est la mycothérapie, donc la thérapie par les champignons. On exploite donc les vertus de ces champignons pour lutter contre divers maux. On a vu le traitement des plaies avec la pénicilline pour éviter les infections, le stress aussi avec certains champignons adaptogènes sur l'humeur, le diabète, les effets de la ménopause ou encore le cancer. Il y a énormément d'études en cours sur l'utilisation des champignons dans le traitement des symptômes du cancer. Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise, elle, a beaucoup exploité le potentiel de ces champignons. C'est le cas aussi de la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle l'Ayurveda. La médecine traditionnelle chinoise prend l'humain dans sa globalité. C'est une approche holistique de la santé, contrairement à une approche allopathique qui ne soigne uniquement que le corps. On sait aujourd'hui que certains champignons sont dits adaptogènes, c'est qu'ils ont ils possèdent des facultés d'adaptation qui sont supérieures à la moyenne et qui permettent à ceux qui les consomment de s'adapter à leur environnement, même dans des conditions difficiles. Donc chez l'être humain, ça va se matérialiser par la régulation du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. On va parler de différents champignons. On a le reishi, qui est surnommé le champignon de l'immortalité. Le reishi possède un très fort pouvoir antioxydant. Il lutte contre les radicaux libres qui attaquent les cellules en provoquant leur vieillissement prématuré. Il renforce également les défenses immunitaires et réduit les troubles de l'humeur. Je vais en citer un qui est assez connu quand même, qu'on a, pour ceux qui aiment bien les champignons, on en a tous consommé. C'est le shiitake qui a une saveur délicieuse et qui, lui, renferme des propriétés anti-cholestérol et il améliore aussi le système digestif. On en a un autre qui est un peu moins connu du grand public, c'est le maitake qui, lui, va être publicité pour son action sur le système immunitaire. Il va aider les personnes qui sont immunodéprimées et il est souvent utilisé dans le cadre des traitements du cancer en complément d'un accompagnement médical classique. Alors vous demandez comment consommer ces champignons qui sont un petit peu miracles. Eh bien, ça va être toujours en consultant votre thérapeute qui valide l'utilisation de ces champignons dans votre traitement thérapeutique et sous différentes formes. On en trouve en complément alimentaire, par exemple, ou bien le shiitake qu'on peut cuisiner tout simplement dans une omelette, en soupe, en poêlée. Donc toutes les recettes sont possibles, n'hésitez pas à être imaginatif.
Les sapiens, au fil du temps, ont fini par trouver plus intéressant de domestiquer les champignons au lieu d'arpenter les bois et les prairies avec le risque de récolter celui qui nous sera fatal. Aussi, il leur est apparu préférable de cultiver et de consommer des espèces connues et comestibles. Les premiers sans doute à en maîtriser la technique furent les peuples asiatiques, du Japon à la Chine. Puis, ce fut au tour des peuples antiques, égyptiens, grecs et romains, de développer la culture de l'Agaricus bisporus, en plaçant du fumier de cheval mélangé à de la cendre dans des souches de figuiers. Cette production en plein air varie ainsi fortement en fonction des aléas climatiques. Cette culture fut délaissée au Moyen-Âge, car à cette époque les champignons sont associés au diable et sont considérés comme maléfiques. Il va sans dire que les plus démunis et les plus pauvres continuèrent, bien entendu, à s'alimenter de récoltes de champignons sauvages. Il faut attendre le XVIIe siècle et le règne de Louis XIV pour que le champignon cultivé redevienne à la mode. Jardinier des potagers du roi Soleil, Jean de la Quintinie, découvre la présence d'agaric dans les plates-bandes enrichies en crotte de brebis. Le roi en devient si friand que la Quintinie met au point une technique à base de fumier de cheval ensemencé avec des spores d'agaric pour en augmenter la production. Plus tard, ce sont les maraîchers de Paris qui le font pousser parmi les légumes en plein air. Puis c'est un horticulteur du nom de Chambry, sous Napoléon, qui a l'idée d'utiliser les anciennes carrières de Paris, dont la température constante avoisine 12 degrés. Il peut ainsi y installer une production toute l'année. La légende du champignon de Paris est née. La culture se propage rapidement dans tous les souterrains et au XIXe siècle, 250 champignonistes assurent l'approvisionnement de la capitale. Malheureusement, la construction des lignes de métro bouleverse l'organisation spatiale du sous-sol parisien. Et les champignonistes déménagent sur les bords de Loire, à côté de Saumur, où quelques-uns continuent encore aujourd'hui d'y cultiver l'Agaricus bisporus. La majeure partie de la production, cependant, se fait dans des hangars à atmosphère contrôlée aujourd'hui. Dans la nature, on ne trouve que très rarement des agarics. Il vaut mieux donc les laisser pour préserver leur environnement et leur multiplication future. Allez, c'est ainsi que nous concluons cette émission à travers cette histoire qui illustre la transition de nos lointains ancêtres fourrageurs devenus agriculteurs. Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Bien sûr, vous pouvez écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante.
sans